Bonjour, on peut encore dire bonjour, il fait bonjour, bien jour. Donc, je suis très très heureuse effectivement d'accueillir Sharon Coste, avec qui j'ai eu le plaisir de travailler très récemment. Je crois qu'une ou deux personnes parmi vous ont pu assister au concert que nous avons donné conjointement, Yes We Sing, avec l'ensemble vocal d'Aquitaine. Et nous avons eu la grande chance d'avoir Sharon comme soprano soliste, c'était vraiment exceptionnel. Donc Sharon est également professeur de chant, bien entendu, au Conservatoire de Bordeaux. Et nous nous sommes rencontrés juste très peu de temps avant que je ne prenne ma retraite, hélas, parce que je pense que dans le cadre même du Conservatoire, nous aurions eu une collaboration très fructueuse. Bon, mais ce n'est pas cette histoire-là que nous racontons. Donc, je vais passer effectivement très vite la parole à Sharon pour qu'elle nous parle déjà peut-être justement de ses débuts au Canada, de sa formation et comment elle est arrivée à cette carrière magnifique.
Alors, à mon tour, bonjour à tous. Voilà. Alors, je m'excuse d'avance si je fais quelques fautes en français. C'est vrai que ça fait déjà 25 ans que je suis ici en France, mais bon, ma langue maternelle, c'est l'anglais. J'ai malgré ça eu la chance de vivre mes premières 13 années à Montréal et donc d'avoir un apport en français également. Pendant ce temps-là, j'ai eu la chance aussi de déjà pratiquer le chant choral à l'école. Parce que au Canada, l'école, ça se passe différemment qu'ici. C'est-à-dire que les études, que ce soit les mathématiques, les langues et l'histoire, sont aussi importants que l'épanouissement de l'enfant. Et dans cet épanouissement, on visite les arts plastiques, on visite la musique, et bien évidemment, avec ces études musicales, viennent bien évidemment notre premier instrument à tous. Tout le monde a une voix. Donc tout le monde, oui, tout le monde me demande est-ce que tout le monde peut chanter ? Oui, oui, même quand on chante faux, on peut apprendre à chanter. Donc voilà, j'ai commencé effectivement à l'école à chanter dans des petites chorales. Ça m'a plu, mais j'étais plutôt instrumentiste puisque j'ai commencé avec le violon à 4 ans, avec le méthode Suzuki, qui est, les parents accompagnent l'enfant à ses cours. Donc les parents, après 2 ans, ils étaient un peu fatigués de faire ça. Et finalement, j'ai passé par plusieurs instruments, la flûte traversière, la flûte à bec, le piano, et tout ça, évidemment, entouré de professeurs de musique tout au long de ma scolarité, que ce soit au collège ou que ce soit au lycée. Et arrivé au lycée, je faisais un peu de composition. Et ces compositions, je les chantais à l'église. Et l'église, c'était une église baptiste, a décidé que j'avais un don. Et que ce don devait être encouragé. Et donc, c'est l'Église qui a payé mes premières leçons de chant. Et c'était une réelle révélation pour moi parce que je n'avais jamais pris un cours de chant dans ma vie. J'avais déjà 17 ans, donc. Et c'était une réelle découverte d'un autre monde que je ne connaissais pas jusque-là. Suite à ces quelques cours de chant, je suis rentrée à l'université parce que là encore, c'est tout nouveau ici en France, le système. Donc, je vais utiliser les sigles LMD, c'est licence, master, doctorat. C'est tout nouveau ici en France pour la musique, en tout cas en ce qui concerne le travail de pratique. Bien évidemment, il y a musicologie qui existe depuis un petit moment. Mais pour ce qu'on appelle vraiment la pratique proprement dit, c'est tout nouveau avec les CNSM qui ont enfin mis donné la possibilité aux autres villes de France d'aussi donner des licences, voire des masters, et le doctorat reste au CNSM de Lyon et de Paris. Donc, ma petite licence en poche et plusieurs concours, j'ai réussi à aller à Toronto, là où il y a un opéra. J'ai un peu passé quand même une étape importante parce que ça concernait les chœurs aussi. Grâce à mon rencontre pendant mes études universitaires du maître de chant choral de l'opéra, j'ai pu auditionner, avoir des petits rôles dans les chœurs et faire mes premiers pas sur une grande scène. Donc ça, c'était à Edmonton, en Alberta. Et c'était vraiment une réelle chance. Ces deux personnes que j'ai rencontrées sont maintenant malheureusement décédées du sida. Mais j'ai eu deux partitions qui m'ont été offertes, que j'ai eu la chance de chanter ces deux rôles, c'est-à-dire Aïda et Norma, dans ma carrière. Donc, des moments très émouvants.
Pas très, des moindres.
Très émouvants de pouvoir ouvrir... un peu plus tard, ces partitions-là. Mais l'école de la vie, pour un chanteur, je pense, commence forcément par les chœurs. Ça commence forcément par les chœurs parce que, déjà, on a besoin de développer l'oreille. Et pour tous ceux qui chantent faux, allez-y, c'est pas grave, mettez-vous dans une petite ensemble au début. C'est l'oreille qui doit commencer à s'entraîner, à dire « Oh, il y a d'autres sons qui arrivent dans mon oreille » et que c'est OK. Et donc justement, ce travail-là, elle est indispensable, en tout cas en tant que soliste.
Je me permets de l'interrompre pour dire combien il est agréable pour moi d'entendre une grande soliste lyrique dire qu'il est très très important de commencer par le chant choral. Il y a quelques années, on va dire une décennie ou un peu plus, le chant choral était très méprisé des chanteurs lyriques, des chanteurs d'opéra français. Hein, je précise bien, parce que comme le disait Sharon, dans beaucoup d'autres pays, toute l'éducation musicale commence par les chœurs et même, je dirais, dans l'enseignement général, il y a de la musique dans beaucoup de pays. J'ai vu récemment que la Suisse mettait dans sa constitution que l'enseignement comportait, l'enseignement national comportait la musique, obligatoirement pour tous les enfants. Alors, évidemment, je suis très heureuse d'entendre Sharon. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que j'ai regretté de prendre ma retraite au moment où elle arrivait. Voilà.
Mais justement, c'est rigolo parce que ça fait penser que... parce que c'était des choses tellement normales qu'on n'y pense plus. Arrivant dès votre CP, dès le CP, tous les matins, on chantait les anthèmes nationaux. Donc, parce que le Canada fait partie du Commonwealth, on faisait God Save the Queen ainsi qu'au Canada. Et ça, tous les matins. Donc, nous, on allait à l'école 5 jours sur 7. Donc, tous les matins, on chantait. Donc, on commençait notre journée par ça. Donc, c'était vraiment un éveil et corporel et social, cet échange-là entre nous tous, ces petites voix qui partageaient déjà quelque chose. C'est une telle normalité que des fois, j'oublie que ça peut sembler extraordinaire ici. Effectivement, arrivant ici, j'ai réalisé qu'on pouvait parfois avoir ce double casquette de gens qui disaient « pratique des chœurs, difficile ». Pourtant, quand j'étais donc engagée comme la plus jeune chanteuse jamais engagée par le Canadian Opera Company à Toronto, j'avais 22 ans, donc je sortais de ma licence. Et le contrat, c'était quand on avait un rôle, on chantait notre rôle. Quand on n'avait pas de rôle, on chantait supplémentaire dans les chœurs. C'était une obligation. Et très bien, parce qu'on sait très bien qu'il n'y a rien de mieux que d'être à côté des grands pour apprendre le métier. Et il n'y a rien de mieux que de se fondre dans la musique, comme j'ai fait aussi en tant qu'instrumentiste d'orchestre. D'être dedans, ça change tout. Ça change notre regard, notre écoute et je crois notre envie. Et aussi notre empathie, parce que des fois, quand on voit des gens peinés, on se dit « je sais que c'est dur ça aussi ». Donc voilà. Après donc cette partie étude, je suis arrivée par le biais d'un prix au Mozarteum de Salzbourg. C'était mes premiers pas en Europe. Et ça m'a beaucoup plu, suffisamment qu'après mes deux ans au Canadian Opera Company, j'ai décidé de me lancer dans la quête des concours, parce que quand on est très, très jeune comme ça, ce n'est pas toujours évident de se lancer autrement. Et j'ai eu la chance, donc en arrivant en France, de gagner les Voix d'Or contre Nathalie Dessay.
Et Salzbourg, c'était déjà pas la moindre des villes. Hein,
et Salzbourg, voilà. C'est... Ce rencontre avec Nathalie m'a permis justement de découvrir le monde musical de la France, parce qu'elle était déjà installée comme française, d'avoir fait ses études sur place, ça change tout, on a des rencontres, etc. Et donc c'était vraiment une superbe rencontre. Et donc, je me suis retrouvée avec son mari, Laurent Naori, au CNIPAL. On a fait les Così fan tutte ensemble. Et de là, vraiment une carrière à proprement dit de chanteuse lyrique. Ce n'est pas pour autant que j'ai délaissé tout autre type de musique, parce que je pense que quand on chante, on aime tout chanter. Il n'y a pas « je n'aime que ça ou que ça ». C'est vrai que ma carrière s'est tournée beaucoup autour des grandes dames de Mozart. Mais comme je disais tout à l'heure, donc, j'ai eu la chance de chanter Aida, Tosca, Traviata, Bohème, Faust, Jeanine Yeguin, plein d'autres opéras autour de ces grandes dames. Mais la musique pratiquée ensemble, ou en tout cas le chant pratiqué ensemble, peut se faire dans d'autres contextes. Ici, en France, je n'ai jamais eu l'occasion ou l'opportunité de faire partie de chœurs type Action Tous, type Microcosmos, type ces chœurs qui sont professionnels ou semi-professionnels, parce que ma carrière m'avait lancée dans une autre direction. Mais ce n'est pas pour autant que je n'ai pas beaucoup de plaisir à écouter. Et notamment, hier soir, on était extrêmement gâtés avec un niveau de justesse que, j'avoue, je n'ai jamais entendu dans ma vie, je pense, et pourtant, oui, j'en ai entendu. Mais c'était juste une merveille. Ce que la voix peut faire, et ce que les personnes qui partagent un moment de musique ensemble peuvent faire.
Moi, je voulais vous parler, Sharon. Oh, je peux te tutoyer,
oui,
je crois,
bien sûr.
Même devant vous. Hein, vous acceptez. Bien, donc avec une carrière comme celle que tu décris et qu'on imagine très bien, la question qu'on se pose toujours, surtout pour une femme, c'est se dire mais quelle est la vie personnelle quand on mène une carrière comme ça. Il est très difficile d'avoir une vie personnelle, de pouvoir se marier, avoir des enfants. Or, je sais que tu as des enfants. Donc, comment as-tu pu gérer cette situation?
Alors, je livre mes petits secrets.
Oui, nous voulons tout savoir.
Alors, livrons. Quand je suis arrivée ici en France, en fait, j'avais rencontré pendant un opéra de chambre à Genève mon ex-mari. Parce que figure-toi, c'est Denis est numéro 2.
Il y en a d'autres.
Mais Denis, ça dure depuis 25 ans, donc c'est pas mal. Alors, en arrivant en France, donc, j'étais avec un Rouennais. Et juste le temps de faire un enfant, de faire le concours avec Nathalie et de réaliser que malheureusement, justement, la vie en couple, ce n'est pas si évident que ça. Quand j'étais au Canada, très à l'américaine, il y avait obligation d'avoir le plan sur 2 ans, sur 5 ans, sur 10 ans. Et dans mon plan de vie, c'était obligatoire que j'aie des enfants jeunes. Donc, les enfants que j'allais avoir devaient arriver avant l'âge de 30 ans. Ha, ha, ha. Et j'ai dit ha, 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 parce que les deux premiers sont arrivés avant 30 ans. Mais la petite dernière, il est arrivé pour la quarantaine. Donc c'est vrai que ce choix de vie-là était très difficile. Il faut comprendre que pour être dans une production, nous sommes demandés d'être sur place, donc dans des villes et des lieux et des pays lointains, pendant 6 à 8 semaines sans pouvoir quitter la production. Et ça, pour la vie de famille et de couple, c'est juste un peu l'enfer. Donc, bien évidemment, déjà, dès que j'avais gagné ce concours avec Nathalie, je sentais déjà que c'était difficile. J'ai dû récupérer donc, mon aîné qui s'appelle Mélisande. Ah. Hein.
Le garçon s'appelle Péléas.
Non, il s'appelle Gauthier, mais de Gualtier Maldé de Rigoletto.
Ah.
Mais donc, je suis arrivée à Marseille avec un petit bout de chou de 4 mois sous les bras, toute seule. J'ai eu des moments très difficiles parce que, à l'époque, le CNIPAL, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le Centre national d'insertion professionnelle d'art lyrique, ce qui se trouve donc à Marseille. Et à l'époque, on avait un petit entrée d'argent. Et c'était en 90. Et à l'époque, on touchait 4000 francs, ce qui n'est pas beaucoup, parce que maintenant, au Studio Bastille et aux Jeunes Voix du Rhin, le salaire, c'est 1 700 € par mois, qui est déjà un salaire plus facile, plus confortable. En tout cas, moi, je sais que mes 4000 euros passaient dans les couches et la garde.
4000 francs, pardon.
600 euros.
600 euros, la valeur.
600 euros. Donc, qui passait dans les couches et la garde. Donc, ça m'est arrivé, par exemple, de fois à Loire, laisser des gens que je connaissais à peine ou garder l'enfant dans ma loge. C'était vraiment des moments très, très difficiles. Et après, j'ai eu donc la chance de rencontrer Denis. Lui, il cherchait un job aussi.
Alors, Denis Porras, donc, que pour ceux qui étaient au concert hier, vous l'avez vu, c'est lui qui était au piano.
Donc, c'est mon mari. Et à l'époque, donc, il avait besoin de trouver des chanteuses pour travailler ou chanteurs. Et moi, j'avais besoin d'un pianiste pas trop cher. Et finalement, le travail est devenu une grande amitié, un grand amour. Et donc, voilà, ça dure depuis 25 ans maintenant. Et il est devenu très cher, même presque inabordable. Mais bon. Mais bon, cela dit, j'ai passé par toutes les étapes. J'ai aussi eu droit, une fois que ma carrière était bien lancée, d'avoir des filles au pair qui me suivaient. Mais là, c'est l'enfant qui n'aimait pas aller dans des chambres d'hôtel. Donc, je me rappelle être à Lausanne avec Gauthier qui hurlait toute la nuit. Et moi, je devais aller hurler toute la journée. Et donc, c'était un peu difficile. Et après 10 jours de ça, j'ai renvoyé au père et enfant à la maison pour pouvoir terminer. Parce qu'il faut savoir que quand on chante comme ça, juste entre nous, l'énergie qu'on utilise, elle est prise par la joie de partager quelque chose. Par contre, quand on le pratique comme un sport de haut niveau, là, le corps a besoin d'être présent et réellement présente. Et donc, pour le coup, j'avais vraiment besoin d'un certain nombre d'heures de sommeil pour que l'organe, tout simplement, hein, le côté physiologique de la chose, puisse avoir suffisamment de repos pour pouvoir assumer mes responsabilités, parce que c'est une grande responsabilité, une fois qu'on est arrivé là, à pouvoir redonner à chaque soir un niveau que nous, on estime notre niveau maximal. Et on ne sous-chante pas. Ben, Eliane a pu voir un peu mon travail. Et donc, c'est pas parce qu'on est avec un ensemble amateur ou un ensemble le plus prestigieux du monde. J'ai eu la chance de chanter à la Scala de Milan, à l'Opéra de Bastille, à Paris, aux États-Unis, etc. De représenter la France dans des pays assez obscurs comme le Corée du Nord, invité par l'UNESCO pour représenter la France, ou pour Madame Schwarzkopf lors de la remise de sa médaille pour l'année Mozart. Donc c'est vrai que tous ces moments demandent un apport au corps qui est important. Donc le deuxième enfant, je me suis dit, tous les deux on s'était dit, c'est bon, et voilà, on arrête là. Et après beaucoup de valises portées, d'aéroport en aéroport, d'hôtel en hôtel, des choses qui sont très difficiles. Il faut avoir la capacité de pouvoir être loin de sa famille. Ça, c'était un grand sacrifice plusieurs fois dans ma vie, notamment Gauthier qui s'est brûlé au deuxième degré sous l'épiderme, et moi j'étais avec une prise de rôle dans La Fille du Régiment et il n'y avait pas de doublure, et le directeur m'aurait laissé partir, il aurait compris, mais moi je ne pouvais pas laisser tomber toute la production parce que je savais que Denis était auprès de lui, que je ne pouvais pas faire autre chose, mais ça ne m'a pas empêché de pleurer toutes mes chaudes larmes toute seule dans ma chambre d'hôtel pendant que mon enfant était à plus de 1000 km de moi. Et donc toutes ces choses, après un moment, il y a aussi un besoin d'être psychologiquement prêt, parce que donc il y a le corps, mais il y a aussi l'esprit. Et quand l'esprit commence à dire que mon dernier grand contrat, c'était à l'Opéra de Miami, j'ai fait Les Noces de Figaro, la Comtesse. Et j'étais là pendant 2 mois et j'avais des standing ovations, des super critiques, et je ne trouvais plus la joie de se dire que ça me suffisait par rapport à ce que ça me coûtait de l'autre côté familial. Et donc j'ai eu ma crise de la quarantaine. Et avec cette crise de la quarantaine, j'ai pris compte que j'ai senti d'un côté une responsabilité. J'avais reçu un don, vraiment, et donc j'avais la responsabilité de le redonner d'une façon ou d'une autre. Et de l'autre côté, mon envie d'être femme et de pouvoir jouir des joies d'être une femme, une maman, une épouse, etc. Et donc, j'ai eu la chance que juste dans ces questions existentielles, nous habitions à Orléans à l'époque, et le directeur m'a appelé un peu en catastrophe pendant l'été. Notre professeur de chant est parti, est-ce que vous pouvez m'aider? Et donc j'ai dit oui. Et avec ce oui, Denis a dit oui pour une petite dernière. Donc j'ai eu ma petite Naomi, qui a maintenant 10 ans et demi. Et vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance de ce côté-là, parce que du coup, je revis la musique, mon chant, d'une autre façon, en partageant donc avec des jeunes prodiges, j'espère, ou en tout cas des jeunes espoirs, et aussi des gens qui ont tout simplement envie de chanter. Tous les étés, on fait un petit stage avec Denis, on ne le fait pas avec justement des grands élèves, mais avec des personnes qui pourraient faire très, très bien faire partie des chœurs d'Eliane. La moyenne d'âge, c'est voilà. Et c'est un moment de partager avec toutes sortes de personnes cette joie de chanter et d'apprendre, tout simplement.
J'ai voulu poser cette question à Sharon parce qu'il me paraissait important de comprendre comment une femme est confrontée à un problème comme celui-ci, un problème de carrière. Sharon, donc maintenant, qui est heureuse effectivement de partager au Conservatoire de Bordeaux dans des petits stages ou avec des amateurs, pas forcément avec les plus grands chanteurs en devenir, mais également avec des gens simplement qui ont le bonheur. Et pourtant, c'était une Sharon est toujours une personne d'une grande carrière, d'une grande qualité qui pouvait donc encore être sur scène actuellement, adulée, encensée comme soliste. Et nous avons cette chance de l'avoir à Bordeaux. Je pense que ce n'est pas le cas pour les hommes qui ont plus facilement une vie, qui peuvent maintenir une vie personnelle, familiale, parce que dans ces cas-là, très souvent, c'est la femme qui se sacrifie. Vous aurez bientôt, je pense, Stanislas de Barbeyrac qui sera à la place de Sharon pour vous raconter sa jeune vie, puisque c'est un tout jeune ténor extrêmement brillant. Nous connaissons très bien son épouse, qui était également chanteuse à Opéra Bastide également, comme lui, et qui a arrêté, elle, sa carrière de chanteuse pour pouvoir élever leurs enfants et que lui puisse faire la carrière que nous lui connaissons maintenant. Et c'est très rare que ça se passe dans l'autre sens. Hein, donc, c'est pour ça que je voulais que Sharon nous parle de sa vie, parce que c'est très important de voir encore que les femmes sont quand même, je ne veux pas apparaître comme féministe outrancière, mais les femmes sont quand même brimées dans leurs espoirs de carrière, tout simplement parce que la vie est là et qu'il est très difficile de maintenir une vie de famille quand on est une femme, et avec une carrière.
Voilà, et il faut que la personne qu'on a choisi de faire notre vie avec puisse supporter tout ça, parce que en l'occurrence, Denis a bien joué maman et papa pendant beaucoup de temps. Et c'est vrai que c'est pas un rôle facile et je pense qu'il apprécie de retourner juste dans son rôle de papa maintenant. Et nous, on apprécie cette vie entre guillemets normale. Il y a des couples qui arrivent, alors justement Nathalie et Laurent, je les connais très bien, qui ont eu la chance d'une, tous les deux, d'être chanteurs, d'une qu'ils ont fait le choix, Nathalie en premier, et maintenant c'est Laurent qui prend le relais et qui monte au niveau renom international. Et c'est vraiment, ils ont fait ce choix-là, ils savaient bien que arriver, on a sensiblement avec Nathalie le même âge, elle a exactement 50 ans.
Oui, 50 ans.
Et donc, elle avait dès le début, dès que ils sont connus, ils avaient décidé comment ça allait marcher. Et en fait, c'est la cellule familiale, par contre, qui s'en est occupée des deux enfants. Ils ont deux enfants. Mais on n'est pas tous, on n'a pas tous la chance d'avoir une cellule familiale derrière qui peut soutenir de cette façon-là. Il faut savoir aussi, je pense que c'est intéressant de savoir que c'est un métier qui coûte horriblement cher. On s'en rend pas du tout compte. Moi, je veux vous donner, ça c'est un truc très américain, donc j'espère que je vous enfonce pas de parler d'argent, mais je pense que il faut en parler parce que ça fait partie de la chose. Et par exemple, un cours de chant à Paris accompagné, c'est aux alentours de entre 125 et 150 euros pour une heure de cours. J'ai payé à l'époque pour voir Régine Crespin. J'allais chanter Madame Lidoine qu'elle a enregistrée donc dans les Dialogues des Carmélites à Montréal. Et donc je me suis dit ça pouvait être intéressant quand même de travailler avec celle qui l'avait vraiment incarnée avec brio vraiment. Et j'étais très déçue parce que j'ai pris un cours qui m'a coûté donc à l'époque donc 1000 francs, 150 euros à l'époque, hein, donc ça c'était en 400, là ce serait 300 euros. Mais et tout ça pour qu'elle me dise que c'était très joli et bonne chance. Oh, peut-être que c'était bien parce que finalement, ça m'a, effectivement, ça s'est très bien passé. Mais bon, tout ça pour dire qu'un cours de chant, par exemple, c'est vraiment pas donné. Les élèves au conservatoire, par exemple, ils ont beaucoup de chance parce qu'ils ont leur cours pour une somme dérisoire. Oui. Mais un cours de chant.
Cotisation annuelle.
Voilà, c'est une cotisation annuelle, mais voilà. Mais on voulait parler aussi d'autres choses parce que, par exemple, faire un concours international de chant. Tous les frais sont à la charge des candidats. Donc, c'est-à-dire que s'il faut aller à droite, à gauche, ben, c'est le voyage, c'est les nuits d'hôtel, c'est payer l'accompagnateur, c'est payer les partitions en plus, les tenues en plus.
Les gardes d'enfants.
Donc, pour vous donner une idée, j'ai gagné au concours international de Paris, j'ai gagné le prix Poulenc. Le prix Poulenc, c'était 10 000 francs à l'époque. Et je suis rentrée dans mes frais. Je suis juste rentrée seulement. Et donc, c'est juste pour donner une ordre d'idée. Quand j'ai fait une tournée d'audition aux États-Unis, mon premier tournée d'audition aux États-Unis, ça m'avait coûté 50 000 francs. Et j'ai eu aucun job de ça. Mon job aux États-Unis est venu quand les États-Unis sont venus en France. Ben, ils ont fait une tournée mondiale, en fait, et ils voulaient trouver pour eux la distribution mondiale idéale.
Idéal.
Donc, il y avait moi et donc qui représentait donc la France. Il y avait un Argentin et il y avait quelqu'un de Stockholm aussi. C'était du coup une Israélite. C'était extrêmement éclectique, très cosmopolite en tout cas. Le choix final pour ça. Et l'audition s'est passée 3 ans avant la première rencontre qu'on a eue ensemble. Donc, au niveau temps aussi, c'est vraiment un investissement à long terme. Et ça aussi explique aussi que beaucoup de personnes choisissent de ne pas aller plus loin ou de ne pas pousser la porte plus loin nécessairement que de rester en ville. Mais ça donne aussi l'opportunité d'être dans la création de nouveaux groupes. Je pense que Voces8 est sûrement partie de ce genre de choses, de rencontres de personnes qui avaient envie de bien pratiquer et à un haut niveau. Et je pense que ces choses-là, il faut qu'on les encourage.
Oui, tout à fait. Bien, merci beaucoup, Sharon, pour ces précisions sur la vie d'une femme chanteuse soliste internationale. Et donc, tu es arrivée ensuite à Bordeaux pour prendre la tête non seulement d'une classe de chant, mais également de tout le secteur chant, voix au conservatoire pendant plusieurs années.
Voilà. Alors, en arrivant ici, j'étais coordinatrice du département chant. Coordinatrice, c'était un petit mot. En fait, effectivement, j'ai mis en place un certain nombre de choses parce que il faut comprendre que apprendre à chanter, c'est très bien. Donc, apprendre techniquement ce que ça représente, c'est très bien. Mais on a d'autres besoins. On a besoin de pouvoir avoir un travail sur les langues, sur le corps. On a besoin de pouvoir jouer.
Sur scène.
Et donc du coup d'apprendre comment tout simplement comment rentrer sur un plateau, apprendre tout simple des choses qui semblent comme être des gestes anodins presque deviennent vraiment un travail qui prend du temps. Parce que il y a rien, on peut pas compresser ça. Et maintenant, on vit dans une société fast food. C'est mon grand, je suis très, très triste de ça quelque part. C'est le côté négatif qui est venu de l'Amérique du Nord, je trouve. C'est cette volonté absolue de courir après des choses et que tout vienne très vite et tout de suite. Et si ça ne vient pas très vite et tout de suite, c'est pas bien. Ça, c'est pas vrai. Il y a besoin de temps, il y a besoin de temps de compréhension, il y a besoin de temps pour ressentir. Et maturité, c'est indispensable parce qu'on peut avoir l'organe, la physiologie peut être là, mais si la tête n'est pas là, ça ne sert pas à grand-chose. Et toutes ces choses-là, on doit essayer de partager. Donc, petit à petit, effectivement, en arrivant, c'était pas facile parce que j'ai un peu beaucoup, je suis comme toi, un peu beaucoup passionnément de l'énergie. Et j'aime bien, j'aime cette passion, j'ai envie de le partager, envie de que ça se ressent, que ça stimule, que ça fait inventer des choses. Et un gros bateau comme le conservatoire, c'est un peu lent, c'est un peu suisse. Et donc, du coup, c'est que depuis 2 ans qu'on a enfin un programme très complet. Alors que je suis très contente de dire ça parce qu'il y a un cours de chant, c'est évident. Mais il y a aussi un cours de formation musicale chanteur. Alors ça, c'est indispensable, la formation musicale, parce que sans pouvoir apprendre les notes sur une page blanche, sans pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est une pulsation, qu'est-ce que c'est, à quoi ça me sert de savoir une armature, à quoi ça me sert, toutes ces termes qui semblent un tout petit peu... compliqué quand on les sort de leur contexte, ben, tout d'un coup, on réalise que ce langage-là nous permet d'aller beaucoup plus loin dans ce qu'on a envie de partager. Et si on ne le fait pas, ben, malheureusement, on a passé à côté de quelque chose. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc, c'est une grande chance. On a beaucoup de chance d'avoir une professeure de formation musicale chanteur, donc qui travaille sur les spécificités des chanteurs. Parce que nous, qu'est-ce qui diffère de notre musicien ? C'est la prosodie. Nous devons pouvoir chanter avec des rythmes sur des langues différentes. Et cette difficulté-là, c'est beaucoup plus difficile que de quelque part, que de, parce qu'il y a les deux côtés du cerveau qui travaillent en même temps. Et donc, on a la chance d'avoir Sophie Pornin, qui est notre professeure de formation musicale chanteur. Et elle s'occupe très, très bien de nos jeunes chanteurs pour ça. Après, on a la chance d'avoir un grand éventail de pratiques corporelles. Ça va d'un travail, justement, apprendre à marcher sur scène, à sentir tout simplement notre corps, sans rendre « Ah oui, j'ai des bras, j'ai des mains, et ils font quelque chose, et si je fais comme ça et que je chante comme ça, c'est horrible. Mais si mes mains deviennent vivantes, ça change le tout. » Donc, il y a un cours de pratique corporelle comme ça. Il y a aussi on offre de la danse classique, danse contemporaine. Il y a aussi un travail sur les arts, on va dire, un peu élargi, les arts martiaux. Il y a, depuis cette année, la grande chance d'avoir un professeur d'art dramatique spécifique pour les chanteurs et danseurs. Alors ça, c'est juste une aubaine extraordinaire. Et tout ça, bien évidemment, entouré du restant de l'équipe. Alors, je parle vite fait des cycles. Il y a 3 cycles au conservatoire, 1, 2, 3. Dans le 3e cycle, il y a une partie qui reste plutôt amateur et une partie qui va aller vers une professionnalisation de chanteur qui s'appelle le cycle d'orientation professionnelle. Et donc, à fur et à mesure qu'on monte dans les cycles, on rajoute des pratiques. Par exemple, en cycle 2, on a en plus un cours de musique française. On travaille la mélodie, l'opérette, qui est vraiment grand désespoir, quelque chose qu'on ne pratique pas assez ici en France. On le pratique beaucoup, par exemple, en Allemagne. Et bien évidemment en Angleterre avec Gilbert and Sullivan. Mais ici en France, c'est un peu boudé en ce moment. Mm-hmm. C'est dommage parce que c'est vraiment juste des œuvres génialissimes. Et on peut beaucoup apprendre de ces œuvres-là. Donc, il y a un cours spécifique pour ça. On rajoute en plus de ça en cycle 3, donc en cours de musique de chambre. Alors la musique de chambre, ça peut être toutes sortes de formations. On peut aller dans quelque chose qui soit plus contemporain et se retrouver avec des xylophones et un saxophone et une harpe, par exemple. On peut avoir des formations complètement... inattendu. On peut avoir des formations beaucoup plus classiques telles que quatuor à cordes avec ou sans piano. Moi, j'ai eu la chance d'écouter énormément des examens de musique de chambre cette année et j'ai trouvé vraiment très chouette d'écouter chant et guitare. Il y a un répertoire magnifique et donc ça, c'était un de mes... Je trouvais ça un des points forts. Donc, avec tout ça, nous essayons aussi d'offrir aux élèves, et il y a quelques outils, la possibilité de faire des manifestations. Il faut savoir, le conservatoire fait plus de 200 manifestations par an dans Bordeaux. Donc ça peut être au Rocher Palmer, ça peut être à l'auditorium, ça peut être à l'atelier du conservatoire. Il y a... justement, les guitaristes aiment bien aller à l'Institut Cervantes, qui est pas loin d'ici. Nous sommes allés aussi à l'Institut Goethe, à la Manufacture. Oui, merci Marie. Donc, vraiment plein d'endroits différents dans Bordeaux pour essayer aussi de s'exprimer, parce que faut apprendre, mais on apprend aussi par faire.
Oui, c'est très, très important. J'ai le souvenir, moi aussi, étant enfant et pendant mes études, ce qui était très important, c'est qu'au minimum, à deux moments de l'année, au cours des études, on avait des restitutions. Ouais, donc, tout petit, c'était en janvier, après l'examen de milieu d'année, et puis après, en juin. Et puis, au fur et à mesure qu'on prenait du galon, le directeur nous emmenait, notamment avec les ensembles de musique de chambre, comme tu le dis, nous emmenait déjà, vous voyez, mon âge, nous emmener déjà dans des prisons, dans des maisons de retraite, dans différents lieux pour nous produire. On avait 13, 14, 15 ans et c'était des moments très, très, très formateurs parce qu'on avait là un véritable contact avec un public qui arrivait là comme ça, ne sachant pas du tout ce qui allait se passer. Nous donnions nos morceaux de concours, nous donnions les ensembles de musique de chambre, lui faisait une présentation et c'était extrêmement formateur. Je pense que c'est ce genre de choses qui a peut-être déterminé ma carrière et celle de mes camarades parce que ça nous donnait le goût de ce partage avec le public et pas forcément avec uniquement une scène au moment du concours, mais justement dans des petites salles comme ici par exemple avec vous, donc tout près des gens qui vous écoutent et qui vous suivent, qui sont avec les yeux avec vous. C'est très impressionnant pour des jeunes et en même temps c'est ça vraiment qui fait qu'ils ont envie de partager ce qu'ils ont appris et
chacun à leur niveau,
voilà, exactement.
Chacun à leur niveau, que ça soit un cycle 1 n'est pas moins intéressant qu'un cycle spécialisé qui se prépare à peut-être des grandes choses. Je pense que c'est ça aussi qui est important et à s'en rendre compte que chacun de nous peut apporter quelque chose, quel que soit son niveau.
Avec ce que tu nous as raconté maintenant donc sur l'énorme éventail de possibilités dans une classe de chant, en fait, où il n'y a pas que le chant, mais de la danse, de l'expression corporelle, des langues, le solfège, la musique de chambre, etc. Est-ce que tu penses qu'on se rapproche de ce que l'on voit aux États-Unis dans la formation des comédiens ou des musiciens, où c'est pas simplement, ils ne sont pas simplement de leur discipline, mais où ils doivent être forts dans des tas de disciplines, justement, s'ils veulent...
Je pense que l'ouverture d'esprit, il y est. En tout cas, au conservatoire, on se rend compte que c'est très difficile parce qu'on invite nos jurys pour venir, par exemple, pour nos examens. Et nous, on a décidé que les examens, notamment pour les grands, devaient être plutôt un concert qu'un examen. Je fais mon air et toutes ces choses-là. Et donc, c'est un réel concert, un réel projet que les élèves construisent d'A à Z. Et des fois, les jurys, ils ont du mal parce qu'ils sont restés un peu vieux jeu. Ils veulent bien entendre leur air, leur mélodie. Donc, qu'on est en train de, je pense qu'on est en train de changer, mais c'est petit à petit. Mais ça, pour moi, les élèves que nous avons dans la classe de chant, c'est déjà trop vieux. Il faut que ça se passe, pour moi, plus jeune. On a la chance d'ailleurs d'avoir avec nous Marie Charvanel, qui s'occupe de beaucoup de jeunes chanteurs au conservatoire. Effectivement, c'est avec nos enfants qu'on va pouvoir espérer avoir cette expression-là un peu plus tard. Et je pense que c'est à nous, à vous, d'encourager vos enfants, vos petits-enfants, d'aller au concert, d'écouter. On a tendance à rester maintenant derrière notre télé ou l'ordi ou la radio. On a notre son HD, donc on a l'impression d'être presque présent. Mais rien ne remplace le petit frisson qu'on peut avoir à sentir cet échange entre les personnes. C'est quelque chose d'électrique, quelque chose d'inexplicable. Nous sommes des bêtes sociales qui ont besoin les uns des autres. Et je pense que c'est important qu'on puisse se bouger justement pour sortir et pour partager ces choses-là. Je sais qu'il y a des familles où ça ne chante pas, par exemple. J'ai la chance, la famille de Denis, ça chante beaucoup. C'est des petits bretons, pardon. Et donc, les bretons, apparemment, ça chante bien. Mm-hmm. En tout cas, ils aiment bien chanter ensemble. Mais c'est des choses, petit à petit, ça se perd. Et c'est quand même à nous qui avons un petite envie ou une petite expérience avec ça, c'est notre responsabilité finalement d'essayer de continuer de partager tout ça, quoi.
Alors, voici l'heure arrivée, n'est-ce pas? Merci infiniment, Sharon, pour tout ce que tu nous as raconté. Merci. Et justement, de voir qu'une grande chanteuse lyrique se retrouve maintenant à Bordeaux, au conservatoire, donc au service, si j'ose dire, de tous. C'est une chance exceptionnelle que nous avons. Et vraiment, nous t'en remercions, Sharon.
Merci beaucoup.
Bravo pour tout ce que tu es et ce que tu fais.